Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
On pourrait parler de quel sujet ce matin, si vous voulez bien. On en trouve la page de Noël. Alors, où elle se trouve, la page de Noël, dans la Bible? Partout! Voilà. Bien. Je vous propose une première lecture. Ça va être émaillé d'histoires, hein, d'accord? Mais des histoires véridiques. On ne l'oublie pas. Je vous propose que nous ouvrions l'évangile de Luc au chapitre 1er. Il y a un beau récit, parmi tant d'autres. Verset 1er et chapitre 1er, verset 68. Et nous lisons cette parole. Alors, c'est le père de Jean-Baptiste. Il s'appelle Zacharie. Et il est prophète. Et c'est lui qui va introduire la venue de Jésus dans ce monde. Avec, naturellement, eh bien, comme précurseur, son fils Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Alors, Luc 1, verset 68, et il dit ceci. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. De ce qu'il a visité et racheté son peuple, il nous a suscité un puissant sauveur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, en parlant de Jean-Baptiste, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la croissance ou la connaissance du salut par le pardon des péchés. Nous allons simplement lire ce passage. Et j'aimerais aborder la question de Noël par-delà, en effet, et loin de l'imagination religieuse ou populaire, qui revient tous les ans avec tout ce que nous connaissons. Nous pouvons y retenir véritablement une vie de famille et le rassemblement des familles, ce qui est aujourd'hui quelque chose de tellement important dans un monde qui se disloque, où il y a tant de séparations, où les gens sont écartelés, parents, enfants sont écartelés. Alors ça, on peut le retenir parce que c'est quelque chose d'important, de savoir que la famille, le mariage, la fidélité est une institution divine, intangible, ça ne change pas. Alors, je pense que la Bible est en référence naturellement dans tout cela. Mais il y a cet événement qui nous est dépeint dans les livres de l'Évangile, et même avant, en prédiction, à travers tout l'Ancien Testament, qui nous montre... En effet, bien la venue de celui qui apporte une bonne nouvelle au monde, qui apporte quelque chose qui est une réjouissance. Et c'est vrai que là où dans la nature, eh bien, et dans cette période hivernale, tout s'éteint petit à petit, c'est la nuit, crépuscule, l'ombre, c'est là où jaillit justement la lumière. Et je pense que ce n'est pas seulement à l'extérieur, mais c'est avant tout au niveau de nos cœurs. Et Noël, s'il a une vertu particulière, c'est de nous éclairer à l'intérieur de nous-mêmes, de nous donner un espoir, une espérance. Ça l'était pour ce peuple d'Israël qui attendait depuis des siècles et des siècles la venue d'un Messie et d'un Sauveur. Et nous voyons que Jésus s'est présenté comme l'étoile brillante du matin, augurant, eh bien, un nouveau monde, augurant des vies nouvelles, parce que nous avons l'habitude d'appeler, nous, spirituellement, la nouvelle naissance. Et vous avez remarqué, je vais retenir simplement qu'une petite phrase de cet épisode qui nous est rapporté par le prophète Zacharie et parlant eh bien de Jésus, et il dira ceci, « Afin de donner à son peuple, peuple d'hier Israël, peuple d'aujourd'hui l'Église, issu naturellement du paganisme, pour donner à son peuple la connaissance du salut. » Où nous pouvons nous représenter que nous sommes dans un monde où il y a une telle confusion religieuse, spirituelle, dans toutes sortes de déviances, dans toutes sortes d'éclatements, un véritable labyrinthe du phénomène de croire. À qui pouvons-nous faire confiance? Qui croire? Qui est Dieu? Quand nous sommes environnés d'une multitude de prétendues doctrines qui nous parlent de Dieu ici, Dieu là, Dieu ceci, Dieu cela, avec, eh bien là, une diversité de noms où les gens ne peuvent plus s'y retrouver et ne savent plus du tout où ils en sont. C'est bien la caractéristique. C'est pour ça qu'on se réclame non pas d'être chrétien, pour la plupart des gens, mais on se réclame d'être catholique, protestant, orthodoxe, bouddhiste, musulman, etc., etc. Et chacun réclame, moi, ma foi, ma religion, ma croyance plutôt, eh bien, et la vérité. Alors imaginez-vous que ça engage des controverses, un nombre impossible de contradictions et voire des combats et des luttes et des guerres. On peut le comprendre. Lorsque nous savons que Jésus lui a dit qu'il était naturellement celui qui mène les hommes à Christ parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais ça, c'est un lieu commun que vous connaissez. La connaissance du salut. Comment peut-on connaître le salut de Dieu? Comment peut-on connaître celui qui est l'auteur de notre salut? Comment savons-nous et connaissons-nous finalement ce qu'il a fait pour nous? Je dis bien fait pour nous. Alors, une des choses qui apparaît, et je voudrais donner une teinte particulière à ce message de Noël, c'est que j'associe Noël, non pas seulement à la naissance de Jésus, à cette venue extraordinaire, remplie de beauté, de tendresse et manifestant l'amour de Dieu, c'est vrai, unissant les hommes pendant cette période, mais il ne faut pas que ce soit seulement cette période de fête, il faut que ce soit tous les jours, faisant que les hommes puissent entendre et réentendre dans leur cœur « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». Bon, on verra au mois de janvier comment ça se passe. Parce que finalement le monde tournera comme il a tourné, et comme il a toujours tourné, et comme il tournera encore, s'il n'a pas dans son cœur cette conviction que c'est Jésus qui le sauve et qui transforme sa vie. Alors, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, et nous pouvons prétendre et pouvons savoir que c'est possible. Si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, je me laisserai trouver par toi, dit Dieu au peuple d'Israël. Mais la raison principale de ce qui va être finalement le thème central de notre méditation, c'est le pardon de nos péchés. Alors, on ne parle pas trop de pardon à Noël. C'est vrai, on en parle à Pâques, parce que c'est véritablement, eh bien là, la révélation de quelqu'un qui est mort à notre place, et c'est l'expiation, c'est la justification. Mais le pardon des péchés, nous allons en toucher deux mots, vous savez, on va en parler un petit peu, qui nous amène à la conscience, parce que notre péché est pardonné, nous sommes conscients, et parce que nous croyons au pardon, c'est que nous sommes conscients de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, et la Bible dit savamment, c'est que nous sommes perdus. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Je ne veux pas prendre de détours. C'est que nous sommes perdus, mais de perdus, nous pouvons devenir des sauvés. Et nous devenons finalement des hommes et des femmes sauvés parce que quelqu'un a pris notre place et parce que finalement, eh bien, il a pris notre folie, notre péché, notre corruption, notre égarement. Il l'a pris sur lui et à travers la foi qu'il nous demande de croire que, étant donné qu'il a été notre substitut, il a pris notre place, nous sommes pardonnés de Dieu si nous croyons en Jésus-Christ. Tout simplement. Donc, en quelque sorte, eh bien là, nous prenons conscience, nous sommes dans la conscience et dans le savoir. Nous savons maintenant ce qu'il faut faire. En qui faut-il croire pour pouvoir être pardonné de nos péchés et puis être sauvé? J'aimerais quelques instants brièvement résumés. La vie de l'enfant Dieu fait homme. Alors je l'appelle comme ça, enfant Dieu fait homme, parce que Jésus, on doit le dire et le redire, Jésus est Dieu. Lorsque nous regardons et nous compulsons un petit peu et nous étudions la théologie ou la christologie dans toute l'histoire qui nous est rapportée dans la Bible, nous apercevons que il est marqué d'une manière tout à fait particulière que Jésus est Dieu et Dieu est en Jésus. Ça, c'est une évidence. Et il a été fait homme, c'est-à-dire à travers, eh bien, l'incarnation, prenant un corps comme nous, pour comme chacun d'entre nous. Alors, on va parler de Jésus quelques instants pour nous remettre un petit peu dans le contexte. Sa naissance est une chose que la science des hommes n'explique pas, voire peut-être les amène à se moquer et à sourire. Mais laissons aux incrédules ce qu'ils veulent. En tous les cas, nous croyons ce que la Bible nous déclare. Et aucun des savants ou des grands hommes de notre monde jusqu'ici n'a pénétré le secret de cette naissance virginale. On l'appelle comme ça. Nous voyons que Jésus a revêtu la nature humaine afin de racheter la race humaine. Dieu se fait homme pour racheter les hommes. On le dit d'une autre manière. Il s'est fait fils de l'homme. Dans toutes les dimensions, il a eu faim, il a eu soif, il a pleuré, il s'est réjoui, afin que nous devenions fils de Dieu. Vous comprenez un petit peu la transition de tout cela, nature humaine pour sauver la race humaine. Il s'est fait fils de l'homme, tout simplement pour que nous devenions fils de Dieu. Une autre dimension, mais une dimension spirituelle, une dimension qui n'est pas de cette dimension, eh bien, de la terre. La Bible nous rapporte également qu'il est né à Bethléem, qui est la ville de David. Du roi David, au temps où Hérode régnait dans la province de Judée, Hérode un petit roitelet parmi d'autres, et il est né dans une rustre ou pauvre étable, ce fut la première demeure de Jésus sous les cieux, puisqu'il nous est dit qu'il venait du royaume de Dieu. Et là, dans ce royaume, avant, eh bien tout simplement, son incarnation et son dépouillement sur la terre, il nous est dit que Christ habitait déjà dans la présence de Dieu. Il nous est parlé de palais d'ivoire dans le livre des psaumes, mais ce qui nous montre que il est descendu, il est venu, il nous a parlé, et il nous a donné finalement, eh bien, la clé, la réponse à toutes les questions que l'homme peut se poser. D'où viens-je? Où vais-je? Et est-ce que, dans ma vie, qui suis-je? Tout simplement. Sa première demeure sous les cieux, ça a été une étable. Ça n'a pas été un palais. Peut-être que beaucoup l'attendaient dans un palais, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Les premières années de Jésus, il a grandi dans l'effacement et dans l'obscurité. Une petite bourgade perdue dans les montagnes de Galilée, que l'on appelle tout simplement Nazareth. Il n'a pas connu la faveur d'une éducation distinguée. Comme il pouvait y avoir des grandes écoles en Israël, déjà à cette époque, pour devenir rabbin, par exemple, pour devenir un personnage du monde religieux. Il n'a pas fréquenté les hautes écoles de son temps. Son ambition terrestre à Jésus, pendant tout son développement, pendant une trentaine d'années avant de rentrer dans son ministère, la parole de Dieu nous dit qu'il a exercé le métier de charpentier à Nazareth. Tout simplement, c'est des choses connues, dans l'atelier de Jésus, son père adoptif. Et on peut imaginer, lui, Dieu, venu se faire fils de l'homme, eh bien, a connu toutes les rigueurs, toutes les vicissitudes de l'existence, et ses mains sont devenues probablement, eh bien, calleuses à l'ouvrage. Jésus a travaillé. Toujours le rapport de la Bible. Et pourtant, Jésus est un faible enfant, comme tous les enfants, naturellement, et il fut par sa naissance un sujet de terreur pour un roi. Ça vous rappelle quelque chose? L'histoire d'Hérode, le massacre des innocents, à travers le sang qui coule, parce que des gens de l'Orient sont venus pour dire au roi de l'époque qui s'appelait Hérode, un enfant, un roi est né dans ce pays. Et là, un roi qui était semi-puissant a eu peur d'un enfant, a eu peur d'un petit enfant qui était déjà déclaré comme le roi. D'ailleurs, les mages ne se sont pas trompés, ils lui ont porté des cadeaux royaux. L'or, l'encens et la myrrhe, qui étaient des cadeaux de marque et de dignité, naturellement. Jésus, jeune garçon, quelques années plus tard, a étonné par l'intelligence de ses réponses les érudits et les docteurs de la loi divine, Jésus au temple, et ces hommes qui étaient vraiment des hommes de supériorité intellectuelle, nous pourrions dire, ont été bluffés, si vous permettez le mot, du savoir de Jésus, d'un enfant de 12 ans, qui connaissait les choses que eux-mêmes ne connaissaient pas. Dans l'âge mûr, Jésus a dominé les forces de la nature, on le sait par les récits de l'Évangile. Il a apaisé la mer, la tempête. Il a multiplié les pains pour la foule qui s'attardait et dont il était trop tard pour les renvoyer dans leur maison. Il a rendu miraculeusement la santé à ceux qu'il a rencontrés sur le bord des routes, un grand nombre. Il a ressuscité des morts par le seul pouvoir de sa parole. Lazare sort. Et puis vient d'autres choses. Jeune homme, lève-toi, le fils de, eh bien là, de la pauvre femme de, nous connaissons, Jaïrus également. Il a dormi enfant dans la crèche d'un autre, ou de d'autres, des animaux. Il a traversé le lac de Génézareth dans la barque d'un autre, la barque de Pierre. Il a fait son entrée à Jérusalem, le jour des rameaux, avec l'âme d'un autre. Il a été enseveli dans la tombe d'un autre. Rien n'était à lui. Tout a été emprunté pour un moment, pour un instant. Voilà. Et il pourra dire, le Fils de l'homme n'a pas de lieu pour reposer sa tête. Il n'est pas comme les oiseaux qui ont des nids ou les renards des tanières. Jésus n'avait rien, strictement rien, et il a tout donné. Oui, par amour pour nous, Jésus s'est fait pauvre, lui qui était riche dans la dimension du ciel. Il s'est dépouillé, il s'est rendu tout simplement indigent pour nous. Mais il était riche. Il était riche parce que lorsque nous tournons les pages de l'Évangile, nous apercevons qu'il y a des milliers et des milliers de gestes, de paroles, d'actes que Jésus, nous le voyons faire autour de lui, pour les autres, pour eh bien le tout un chacun. Et nous nous apercevons qu'il les a enrichis de mille et une manières, physiquement, psychologiquement, moralement, et combien dire sur le plan spirituel. Les hommes venaient à Jésus parce qu'ils recevaient de Jésus des trésors. Trésors de grâce, trésors de pardon, trésors de vie, trésors de rétablissement, d'abondance. Eh oui, ça c'est Jésus. Alors il était riche et par amour pour nous, il s'est fait pauvre. Il possédait toutes choses. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous connaissez, naturellement. Il a voulu tout quitter pour partager avec nous le pain de la douleur et de la souffrance humaine. Ouais. Il a été jusqu'au bout, il ne s'est pas résigné devant ce qui pouvait l'attendre à Gethsémané ou à Golgotha. Il a été jusqu'au bout. Et puis, il a tout donné dans tout ce qu'il a pu connaître de peine, de souffrance, de larmes, et faire de son éternelle destination, c'est-à-dire le ciel, la vie éternelle, la félicité, la nôtre. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, si nous repassons tout cela dans notre cœur d'une manière très, très succincte, nous nous apercevons que il a tout donné, Jésus. Il a tout fait pour nous. Et si nous sommes là et que nous avons pu ce matin et que nous continuerons à le faire, si nous pouvons véritablement exprimer notre adoration, exprimer notre reconnaissance, exprimer par des mots qui sont des mots inspirés de Dieu, parce que nous sommes touchés profondément à l'intérieur de nous-mêmes, alors à ce moment-là, nous pouvons dire « Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es admirable. Tu es le conseiller. Tu es le Père éternel. À toi appartiennent la science, l'intelligence, la puissance, mais à part toi appartient aussi, eh bien, finalement, cette vie que tu as donnée pour chacun d'entre nous et qui fait que ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien nous le sommes. Encore quelques détails sur la vie de Jésus. Nouveau-né, il eut une simple crèche, c'est-à-dire une mangeoire pour les animaux. Tout simplement, il a eu une crèche pour berceau. Imaginez-vous aujourd'hui que si vous attendez un bébé, vous n'allez quand même pas lui donner une crèche, un vulgaire panier. quoiqu'il y ait des malheureux aujourd'hui qui naissent encore dans ces conditions. Faut bien le dire, hein. Avec rien, mais strictement rien. Mais Jésus s'est dépossédé de tout ça. Beaucoup plus tard, Jésus est allé sur nos chemins de place en place, et c'est tout le déroulement des évangiles qui nous est rapporté, où il soulageait les peines et les souffrances et les maux des hommes, prenant sur lui nos fardeaux et nos peines. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et qu'est-ce qu'il dit? Il donne la réponse. « Et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Ça, nous le savons, hein. Apportant à tous ceux qui étaient désespérés l'espérance et la paix qui descend d'en haut, pécheurs, qui se repentent de ses péchés. Ça, c'est parce qu'il a la conscience, et cette conscience de son mal, de son péché, de sa perdition est venue parce que finalement, il a appris. Il a, comme nous l'avons lu, pour donner à son peuple la connaissance du salut. Et il n'y a pas de désespérance dans notre vie. Il ne peut pas y avoir de désespérance dans l'existence d'un homme. Pour la bonne raison que Dieu nous a apporté à la fois, nous pourrions dire, le schéma de notre salut, et puis l'invitation d'y répondre. Alors à ce moment-là, nous allions cette parole à son peuple, la connaissance du salut, pour le pardon de ses péchés. Et le pardon de nos péchés, c'est la conscience que nous sommes perdus et que Dieu peut nous pardonner. Et moi je le dis et je voudrais le réaffirmer, je le réaffirmerai avant de terminer tout à l'heure. Mes frères et mes sœurs, je voudrais vous le dire, et ça vous l'avez déjà entendu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. On est d'accord? Alors arrêtez de vous triturer, arrêtez de chercher des péchés anciens, arrêtez de remettre les choses en cause, de remettre tout sur la table avec cette question qui n'en finit pas. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Dieu vous a pardonné si vous croyez en Jésus-Christ. On est d'accord? Et ça, c'est un tourment qui vient sur les églises, qui vient non pas de Dieu, mais qui vient du diable, pour vous mettre toujours dans les chaînes et les prisons, dans un renfermement. Eh oui. Jésus n'avait pas de bourse sur lui. Il n'avait pas d'argent sur lui. On le sait, c'était bien sûr. Et pourtant, il a enrichi, puisque nous parlons qu'il est riche. Ouais. Il saura dire même, à une question qui a un caractère éminemment politique, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand on donne à Dieu ce que il lui revient, je peux vous dire que c'est Dieu qui nous enrichit. Et je ne prêche pas l'évangile de la prospérité pour autant. Depuis, des grands hommes ont paru et sont tombés. C'est vrai. Ils sont tombés dans l'oubli, ou tout simplement sur les feuilles d'une page d'un livre d'histoire. Et je voudrais vous dire que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne passe pas. Jésus est le même. Ça, c'est quelque chose. Puis pour finir cette considération sur la vie de Jésus en abrégé. Hérode, le grand roi de Palestine à l'époque, n'a pas pu le faire mourir à sa naissance. Et on en connaît un petit peu les choses. Ni Satan réussir à entraver sa mission, et combien Jésus a eu d'opposition dans sa vie. La mort enfin n'a pas eu de pouvoir sur lui pour le détruire, ni le tombeau pour le retenir. Et ça, c'est finalement eh bien, ce que nous explique la Bible. J'ai voulu vous le rappeler tout simplement avant d'aller plus loin. Le vrai sens et le véritable but de Noël, c'est le pardon, et j'y viens maintenant. Jésus est né pour mourir, non pas pour lui-même, mais il est né pour mourir pour chacun d'entre nous, pour tous les hommes. Il est venu une première fois, rappelons-le, dans la honte, dans l'ignominie, dans le rejet, dans l'humiliation. La Bible nous dit également, et nous avons même de la bouche de Jésus des promesses de nous avoir préparé une place, de revenir bientôt, de réapparaître sur la scène de notre monde. Donc il est venu dans la honte et il revient en gloire et en majesté. 360 versets sont consignés dans le Nouveau Testament pour nous dire que aujourd'hui notre espérance de chrétien, c'est parce que nous attendons le retour de Jésus. Comme il y a 2000 ans, les Juifs attendaient la venue du Messie. Le Messie est venu pour les Juifs, mais ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont tué. Israël attend encore un Messie. Nous attendons le Messie de Dieu pour le salut d'Israël et pour le salut de tous les hommes. Et il est là. Et il revient bientôt, mais il reviendra à une différence près, c'est que il reviendra en gloire et majesté pour enlever et prendre avec lui son Église et pour avoir la vie éternelle. Dans Matthieu, si nous pouvons poursuivre brièvement et concrètement, dans Matthieu chapitre 24, qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce passage ? Une chose bien simple. Il nous est simplement rappelé cette parole. Alors, Luc, c'est Luc que je vous ai dit, non, Matthieu ? Ah ben excusez-moi, hein. Et pourtant j'ai mes lunettes, mais je me trompe quand même. Alors voilà. Donc, Luc 24, 47. Écoutez bien. 24, 47. Ou verset 46. « Et il leur dit, ainsi est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Écoutez bien. Que Jésus souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Le message de l'évangile, c'est un message qui ne s'est jamais éteint, qui a toujours présidé les siècles dans lesquels qui nous ont précédés. Le message de l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et tant que cette bonne nouvelle sera prêchée, il y aura des millions, il y aura des millions d'âmes qui se tourneront, qui invoqueront le nom de Jésus pour leur pardon des péchés et qui seront sauvés. Comment se fait-il que l'Église de Jésus-Christ, encore aujourd'hui à travers ces siècles, qui ont connu des guerres de religion, qui ont connu des persécutions, où on a brûlé des millions et des millions de Bibles, on a persécuté des hommes qui croyaient en Jésus-Christ. C'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de foi, tout simplement, dans celui dans lequel nous avons cru et que nous avons bien reçu le pardon de nos péchés parce que nous vivons maintenant dans la paix et dans cette sécurité ou dans cette sérénité de notre salut. Ça, c'est une chose. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 12, je restitue simplement le texte. C'est Jean qui dit cela, « Je vous écris, petits enfants, parce que nos péchés, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » On n'est pas pardonné en Marie, on n'est pas pardonné en Pierre, en Jacques, en Alain, éventuellement. Mais on est pardonné dans le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous pardonne nos péchés. Et si quelque part, et souvent dans notre vie, eh bien, nous sommes dans la culpabilité, réelle culpabilité, parce que nous avons été méchants, parce que nous avons été injustes, parce que nous avons parlé mal, parce que nous avons fait une faute. Si nous nous approchons de lui, au Père, et que nous demandons dans le nom de Jésus que Dieu nous pardonne, il va vous pardonner. Fini la culpabilité à mort. Fini le confessionnal. Fini d'aller se confier à un homme. On se tourne vers Dieu et on lui parle de notre vie, de nos fautes, et nous sommes pardonner de nos péchés. Noël, c'est le pardon de Dieu. C'est le pardon de Dieu. D'ailleurs, Jean-Baptiste, dont nous avons parlé au début, dira, en présentant à ce monde d'Israël qui venait vers lui pour être baptisé, baptême de repentance, quand il désignera Jésus, il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et quand on sait la symbolique d'un agneau en Israël, notamment par rapport au sacrifice de la Pâque, eh bien Jésus justement est cet agneau pur, sans tache, qui va être sacrifié, qui va être crucifié à notre place, et c'est lui qui va faire la médiation entre Dieu et les hommes, entre nous pécheurs et Dieu saint, pour nous dire eh bien tout simplement que parce que nous croyons en Jésus, que nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Il est le médiateur, il est l'intermédiaire. Et au lieu de frapper en justice, eh bien, que Dieu frappe en justice les hommes, c'est Jésus qui va être frappé à notre place. Et si nous voulons nous souvenir de Jésus, pourquoi il est né, pourquoi il est mort, eh bien, il faut savoir que c'est lui qui a été le paratonnerre, qui a été le bouclier, et au lieu que nous soyons frappés, c'est lui qui a été frappé. Et moi, je crois, je veux le confesser, je crois que Jésus est mort pour moi, qu'il est mort pour mes fautes et mes péchés, et il me délivre maintenant, finalement, de tout cet état. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le livre des Actes, avant d'en arriver à quelque chose qui conclura, au chapitre 5 et au verset 31, c'est Dieu qui l'a enlevé par la mort, par la résurrection et par l'ascension, qui a enlevé Jésus. Dieu l'a élevé, enlevé et élevé en gloire comme prince et sauveur, pour donner à Israël et pour donner au monde entier la repentance et le pardon des péchés. Eh oui, la repentance et le pardon des péchés, nous l'avons. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire autre chose quand on voit le monde religieux chrétien, quand on voit le monde religieux païen, donc autre religion que le christianisme, se plier à des sacrifices, se plier à des mortifications, se plier à des souffrances et à des douleurs pour racheter son ciel ou pour acheter son ciel, c'est complètement antibiblique, c'est antiscripturaire. Eh oui. Et nous voyons que c'est toujours de la surchère. Faut acheter son ciel. Faut acheter le pardon. Faut acheter ceci et cela. Faut acheter sa place, en quelque sorte. Mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et il a tout accompli à la croix du calvaire. Je termine par une histoire, si vous voulez, parce que je pense que c'est bien. Les enfants, vous avez vos oreilles avec vous? Les grands, vous avez amené vos oreilles avec vous? Bon, moi j'ai mis mes lunettes, alors j'espère que je vais pouvoir voir quelque chose. Il y a toute une histoire autour des lunettes, hein, mais je vous le dirai pas pour l'instant, parce que je passerai des mauvaises fêtes de Noël. Mais bon, écoutez bien. L'homme était assis sur le bord du trottoir. Et il avait les yeux fixés sur le pavé. Un homme que nous pouvions reconnaître qu'il était profondément malheureux de quelque chose. Un homme qui était tombé dans l'indigence. Et il souffrait d'être là où il était. Alors il y avait bien quelques passants qui se retournaient là pour le toiser en disant « Qu'est-ce que c'est que ce personnage ?» Comme on l'en voit malheureusement dans nos villes et dans nos rues. Hein. Les gens étaient étonnés, il avait une barbe de plusieurs jours, il était hirsute. Ses épaules étaient affaissées et ses chaussures, qui étaient complètement éculées, attiraient les regards. Alors on le regardait du haut en bas en disant « Mais est-ce que c'est un homme encore ? Est-ce que c'est encore un être humain dans un tel état, dans une telle situation ?» Alors les gens le regardaient avec, pour certains, une certaine pitié, pour d'autres, une désinvolture en disant « Je te remercie Seigneur de ce que je ne suis pas comme lui ». Vous ferez le rapport. Mais il n'en était pas conscient du regard des autres sur lui-même. Et il était pensif à ce moment-là lorsqu'il était dans le caniveau. Parce que c'est bien le terme que l'on peut employer, être dans le caniveau. Mais il était en train de penser et il revivait sa vie d'avant. Il se disait, ouais. J'ai été ceci, je suis devenu cela. Mais qu'est-ce que ma vie aujourd'hui? C'était un clochard famélique. Quelqu'un qui avait énormément faim, naturellement. Et qui avait passé la nuit précédente et peut-être les nuits d'avant, tout simplement, sous l'arche d'un pont. Imaginez-vous, hein? Oui. Dormir à la belle étoile, par exemple. Et quand il pensait à ce moment-là, le moment où nous avons pris là, il pensait qu'il était un petit garçon, qu'il avait été un petit garçon, qui vivait dans une maison de briques rouges, située au bout de la rue dans laquelle il était, mais il n'était pas dans la même rue, vous allez voir pourquoi. Et il avait maintenant un certain âge, il avait vieilli doublement. Il avait vieilli parce que finalement, l'existence qu'il avait menée, eh bien, l'avait amené finalement à avancer ses âges. Peut-être la maison avait-elle depuis longtemps été rasée par le bulldozer, c'était sa maison, la maison de ses parents, la maison de son enfance, la maison où il avait été heureux, nous pouvons dire. Et il se disait, mais peut-être que là, il n'y a plus rien du tout, comme ça se fait aujourd'hui, parce que les villes, elles sont tellement modifiées, hein, mais bon, c'était un autre temps, on peut dire. Il espérait seulement que s'il y avait eu une démolition dans son quartier, que les bulldozers n'avaient pas écrasé son beau parterre de pensées, de fleurs. Oui. Parce que ça, ce petit garçon, eh bien, il avait cette innocence et cette tendresse. Il aimait les fleurs, en quelque sorte. Que la balançoire que son papa avait faite pour lui, eh bien, était encore là. était encore là. Tout simplement. Et que du sentier sur lequel il avait appris à faire du vélo, eh bien, tout était resté de même. Et ses parents avaient beaucoup économisé, tout simplement, pendant des mois, pour acheter cette maison, pour acheter le jardin, pour acheter, faire le jardin, et surtout pour lui acheter son vélo. Hein. Il s'en souvenait tout ça, c'était quelque chose qu'il renvoya en arrière avec, il pense avec beaucoup de tendresse. Et puis à un moment donné, il a haussé les épaules avec impatience, car l'éclat de ces images qui lui revenaient en tête le blessait, et ça le rendait encore deux fois plus malheureux. Oh, qu'est-ce que je pouvais être heureux lorsque j'étais un enfant. Lorsque j'étais au milieu de mes parents qui m'aimaient, qui me choyaient, qui me donnaient tout ce dont j'avais besoin. Et ça, c'est quelque chose qui l'insupportait. Et sa mémoire se déplaça brutalement vers une autre décennie, vers d'autres moments de sa vie, mais après tout ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé après? Le vélo avait été changé, vendu, bricolé pour le remplacer par une mobylette. Et il commençait alors à rentrer moins souvent à la maison. Il avait des amis, il avait des compagnies, et puis toutes sortes de choses. Certes, il avait une bonne place à l'époque. Il travaillait donc chez un patron et il gagnait son argent, mais il avait beaucoup d'amis à foison. Hein. Ah oui, des amis, il s'en était fait. Parce qu'il était devenu un homme, parce que c'était plus un enfant, parce que les choses avaient changé, parce qu'il possédait quelque argent. Et puis, voilà, il était regardé de droite et de gauche, et quand vous êtes un peu comme ça, vous avez cette frénésie de vivre et de vivre et de tout craquer, c'est la caractéristique de la jeunesse. Ça vous rappelle pas l'histoire d'un autre jeune, ça? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, naturellement. Alors, quand finalement il vivait cette vie, quelques temps après, son père et sa mère avaient l'air un peu tristes. Et il se disait, mais que va devenir notre enfant? Que va-t-il devenir? Mais les parents vieillissaient, ils grisonnaient un peu et ils rentraient dans la vie. En tout cas, les bistrots étaient beaucoup plus intéressants que la maison. Hein. Ah oui, parce que là, ils se retrouvaient, c'était la joie, c'était la liberté. Ouais, loin des yeux, loin du cœur, comme l'on dit, hein, naturellement. Ah, c'était plus amusant, naturellement. À vrai dire, il ne tenait pas à se rappeler ou à ce qu'on lui rappelle ces allées-là dans sa mémoire, et pas plus qu'il se souvenait avec plaisir du jour où ses dettes se sont amoncelées. Il a fait des dettes un peu de tous les côtés, ça il ne voulait pas en entendre parler parce qu'il disait « bon ben voilà, maintenant c'est une affaire classée, on n'en parle plus ». Et il était rentré dans l'intention de demander de l'argent à ses parents, lorsque l'on voit là le début, qu'il était sur le bord du trottoir, il se dit « j'y vais pas, je ne sais pas ». Ses parents lui avaient préparé une tasse de thé, il avait prévenu ses parents en disant « je vais venir ce soir », mais lui il avait une intention derrière la tête, donc il lui avait préparé une tasse de thé, quelques gâteaux, il était content, peut-être sans vouloir lui faire de reproches en disant « mais qu'est-ce que tu es devenu, pourquoi tu fais ceci et cela ?» Certainement sans proche. Mais il n'avait pas aimé, finalement, eh bien, la démarche qu'il faisait pour demander de l'argent à ses parents. Il savait pertinemment où le père gardait l'argent de la famille, tout simplement, et quand plus tard ses parents sont sortis faire un petit tour dans le jardin, ce fut pour lui un jeu d'enfant de prendre dans la petite caisse familiale tout ce qu'il y avait, et il y avait de l'argent. Peut-être cet argent avait été gardé pour lui le jour où il reviendrait bien pour un nouveau départ dans la vie, mais il a mis la main sur tout ça, il est parti. Et c'était la dernière fois qu'il avait vu ses parents, parce qu'il s'est dit, moi j'ai volé mes parents, maintenant je ne reviendrai plus parce que j'ai trop honte, naturellement. Et il avait certainement raison. Et après cet épisode, il n'a jamais voulu retourner donc dans sa maison, et ses parents avaient perdu la trace. Il était parti bien loin, voire peut-être même dans un pays étranger, et ils ignoraient toutes ces années d'errance, de peine, qu'il avait purgées en prison, parce que ça ne s'était pas arrêté là. Toutes ces années de prison où il avait été emprisonné pour avoir fait des infractions, tout simplement. Et souvent la nuit, au cœur de sa cellule, dans l'obscurité, dans sa cellule, il avait pensé à eux deux, à son père et à sa mère. Il y pensait souvent. Parfois, il se tournait et il se retournait tout éveillé sur son lit, tout simplement, son grabat, et la clarté de la lune progressait sur le mur. Et il avait tout loisir de se poser des questions, là où il était arrivé, ce qu'il avait été avant, là où il en était, et naturellement tout ça le troublait. Mais il se disait, comme tout prisonnier, une fois que je serai libre, je serai tellement heureux de voir mon père et ma mère. Je serai tellement heureux s'ils étaient encore en vie, si mon quartier était resté tout pareil, et toujours en supposant avec une certaine pensée douloureuse, mais mes parents avaient-ils encore envie de me revoir? C'est ça la question. Voulaient-ils me revoir? Quand son temps fut expiré, il trouva un petit emploi dans la ville quand il est sorti de prison, c'est ça ce que je veux dire. Mais il n'a pu se maintenir parce qu'il était tellement tenté. Tenté de ceci, tenté de cela, il était faible naturellement. Et il y avait une chose qui était en permanence au fond de son cœur, c'était un sentiment qui l'attirait d'une manière presque magnétique à retourner voir ses parents, voir la maison, et c'était une impulsion à laquelle il ne pouvait pas se dérober, c'était quelque chose de plus fort que lui. Chaque fois qu'il allait faire un tour, quelque chose, un parterre de fleurs par exemple, un enfant sur une balançoire, Un petit garçon rentrant de l'école en courant lui rappelait sa vie d'avant, la petite maison de briques rouges. Alors, il ne voulait pas débarquer sans un sou devant ses parents. Ainsi couvrit-il à pied, de la manière dont il a trouvé, une partie du trajet pour aller retourner dans sa ville. Il aurait pu arriver beaucoup plus tôt à destination, mais après une trentaine de kilomètres, il fut soudain submergé par le doute. Quel droit avait-il de rentrer dans la maison de ses parents? Quel droit? En raison de ce qu'il avait fait, en raison de sa vie. Tout simplement. Pouvait-il jamais faire la relation entre l'homme hagard qu'il était devenu, le clochard, l'indigent qu'il était devenu, le petit garçon qu'ils avaient aimé, et qui les avait si cruellement déçus? Grande question pour cet homme. Alors, il s'est acheté de quoi manger, et il a passé le plus clair de la journée, tout simplement, assis sous un arbre, en méditant, en faisant revenir sa vie, ce qu'il était devenu, et puis la promesse pour un avenir peut-être meilleur, de revoir ses parents, naturellement. Il a posté une lettre ce soir-là. Il a posté une lettre qui était très courte, certes, mais qui avait mis des heures à l'écrire, parce qu'il ne savait plus comment faire, pour expliquer sa situation. Elle se terminait cette lettre par ces mots qui sont importantes. Je sais qu'il n'est pas bien, qu'il est déraisonnable de ma part de supposer que vous tenez encore à me recevoir, à me voir, à m'accueillir. Je crois que c'est une folie. Est-ce que vous le voulez encore? Mais moi, je ne peux pas croire que vous pouvez, eh bien, accepter votre fils tel qu'il est maintenant dans cet état. Ainsi, est-ce de vous voir? Est-ce que vous permettez, est-ce que je peux encore espérer? Et il ajoute au bas de cette lettre, en tout cas, je viendrai au bout de la route, jeudi, très tôt le matin, à l'aurore, si vous voulez que je rentre, si vous voulez me revoir, si vous voulez m'accueillir, si vous voulez que je sois encore votre fils, alors, je vous demande une chose, suspendez un mouchoir blanc à la fenêtre de mon ancienne chambre à coucher. Si je vois le mouchoir, je viendrai. Sinon, je vous dis adieu, je repartirai et je passerai mon chemin. Le jeudi matin, étant arrivé, il se trouva au bout de la rue. La maison était toujours là. Lui qui avait pensé qu'elle avait été rasée par les bulles des airs, elle était toujours là. Mais maintenant qu'il était sur place, eh bien, il n'était pas pressé du tout d'aller plus loin. Il était assis sur le même trottoir dont nous avons parlé tout à l'heure, les yeux rivés sur le pavé. Et bien qu'il ne pouvait pas repousser indéfiniment sa visite, après tout, il était impossible qu'ils aient déménagé, pensait-il. Au cas où le mouchoir ne serait pas là, il ferait sa petite enquête auprès des voisins avant de quitter définitivement la ville. Il pouvait être très bien là et simplement ne pas vouloir de lui. Toutes ces questions étaient là finalement dans sa conscience. Mais il n'avait pas encore le courage de faire face à cette éventualité, ni d'imaginer ce qu'il ferait en pareil cas, si ses parents ne voulaient pas. Alors il se releva, spontanément, péniblement, car il était engourdi à force de dormir à la Belle Étoile, sous les ponts, naturellement, et la rue était toujours dans l'obscurité. Grelottant un peu au petit matin, il marcha en silence vers le vénérable platane qu'il connaissait bien, d'où il savait qu'il pourrait voir la maison, la vieille maison, sans être vu, aussi nettement que possible. Il n'y jetterait qu'un coup d'œil, avant d'arriver à cet endroit-là. Alors il se tint un long moment sous les rameaux de cet arbre, les yeux clos. Puis il respira un bon coup pour prendre de courage et risqua, finalement, eh bien, de se lever. Il était à ce moment-là pétrifié, regardant encore et encore sans se lasser. Déjà le soleil dardait à l'horizon sur la petite maison en briques, qu'on ne pouvait honnêtement plus désigner ainsi, parce que chaque mur, écoutez bien, chaque mur était façonné par des mouchoirs blancs. Des mouchoirs blancs partout, à chaque fenêtre pendaient des draps, pendaient des têtes d'oreiller, des torchons, des nappes, des mouchoirs et des serviettes de table, et des rideaux en mousseline blanche, étaient étendus sur le toit, accrochés à la fenêtre et en mansarde. La petite maison de briques avait l'air d'un chalet emmitouflé de neige, qui rayonnait dans la clarté du matin. Ses parents n'avaient voulu prendre aucun risque. Ils étaient prêts à l'accueillir à bras ouverts. Ils ne voulaient pas qu'il se méprenne et qu'il reparte. Ouais. Alors l'homme se redressa et laissa échapper un soupir de soulagement. Puis il remonta la rue en courant et entra tout droit parce que la porte était ouverte. Mes frères et sœurs, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Dieu ne repose jamais lorsque nous voulons le voir, lorsque nous voulons lui demander pardon, lorsqu'avec quelle que soit la vie que nous avons eue, Dieu ouvre toujours la porte et il met pas des mouchoirs blancs, mais il nous parle avec le cordeau écarlate qui est l'insigne du sang de Jésus qui est mort pour chacun d'entre nous. C'est ça, cette histoire. Et ça, c'est quelque chose. Et nous avons, par exemple, dans le livre des psaumes, il nous est dit, mais comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et craindre Dieu, c'est pas la crainte là qui fait peur, c'est la crainte de le respecter et de lui dire tout simplement que nous croyons qu'il est notre Père céleste, qu'il nous pardonne, qu'il nous a donné Jésus à notre place et qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Souvenez-vous des mouchoirs blancs. C'est l'image de la paix. Quand sur un terrain de combat, de guerre, eh bien, on dresse finalement, eh bien, ce mouchoir, au bout d'un bâton, eh bien, ça veut dire on fait la paix. Eh bien, Dieu fait la paix avec les hommes. Noël, c'est la paix avec les hommes au prix du pardon que Dieu nous accorde. Que le méchant abandonne sa voie, nous dit le prophète Ésaïe. Que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Mes frères et sœurs, nous sommes invités ce matin à prendre en considération, eh bien, que le Seigneur est un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu qui appelle les hommes. Et Noël, c'est ça. C'est pas un rejet, Noël. Au contraire, c'est une invitation. Et moi, je voudrais en conclusion dire ces paroles, simplement, pour ceux qui se sentent perdus. Et même chrétiens, on n'a pas à se sentir perdus puisque nous sommes sauvés. Mais à ceux qui se sentent perdus, à ceux qui se sentent jugés, ou qui s'auto-jugent, qui s'auto-condamnent, qui sont condamnés par les autres, pour ceux qui se culpabilisent du mal qu'ils ont commis sans trouver la paix de leur conscience, pour ceux qui éprouvent tout simplement l'indignité d'eux-mêmes, qui se sentent sales, qui se sentent tourmentés, qui se sentent rejetés, dont ils font le bilan d'une vie ratée, eh bien moi je voudrais vous dire que la porte est ouverte. La porte est ouverte et autour de vous, Dieu met des mouchoirs blancs pour vous dire « Maintenant viens, rentre ». Et je t'accueille, c'est l'histoire du fils prodigue, tout simplement. Alors que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. C'est une petite histoire, une vieille histoire qui court un petit peu dans tous les milieux évangéliques. Mais une chose qui est certaine, c'est pour nous dire que Dieu nous dit, eh bien, et nous adresse cette invitation. Viens et rentre dans la maison de ton Père. Et nous avons la possibilité de le faire, mais il faut le croire. Et c'est ça le message de l'évangile, ça s'appelle une bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse et nous allons prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous te remercions pour le sens de Noël. Pour le but de Noël, c'est Dieu qui nous apporte à travers la personne de Jésus, celui qui est blanc comme la neige, celui qui est pur, en effet, de cette blancheur, de la perfection du ciel. Alors, nous voulons te demander dans ta bonté, dans ta fidélité que tu nous enseignes. Qu'en effet, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui rentrent dans la maison du Père en invoquant le nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Je te prie, Père éternel, de bénir. Je te prie, Seigneur, de nous encourager. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que Noël, c'est la joie. Ce n'est pas une joie externe seulement, ce n'est pas une joie des apparences, mais c'est une joie profonde. Et notre prière, ma prière ce matin, c'est de te prier pour l'Église, Seigneur, mais encore davantage de te prier pour tous ceux qui sont dehors, tous ceux, Seigneur, qui sont en recherche, tous ceux qui sont malheureux, tous ceux qui sont culpabilisés, tous ceux, Seigneur, qui sortent de prison, façon de parler, tous ceux, Seigneur, qui ont faim, qui ont soif, les indigents, Seigneur, de ce monde, tous ceux, Seigneur, qui ont raté leur vie. Eh bien, je te demande, Seigneur, qu'ils croient la bonne nouvelle, que les portes du royaume de Dieu sont ouvertes, et que, Seigneur, autour d'eux, eh bien, il y a plein de mouchoirs blancs qui les invitent, Seigneur, tout simplement à rentrer dans ton royaume. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.